Et contre toute attente, le sexe n'est pas toujours une partie de plaisir. Il arrive en effet parfois que la sexualité devienne une maladie engendrant obsession, addiction et souffrance. Des consultations d'addiction sexuelle existent même dans certains hôpitaux afin d'aider ceux qui manifestent des comportements compulsifs. Avec mes invités, nous allons voir ce qu'est vraiment la sexualité lorsqu'elle passe du normal au pathologique. Quels sont les facteurs de vulnérabilité? Comment prendre en charge ce problème? Et j'attends bien sûr vos messages et vos questions, peut-être vos témoignages. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, Axel, les dômes de méthane de l'Arctique, surveillés de très près par les scientifiques.
Oui, il s'agit de quantités importantes de gaz à effet de serre maintenues depuis des dizaines de milliers d'années par le froid et la pression de l'eau, et que le réchauffement climatique pourrait bien libérer brutalement. On en discute avec le climatologue Philippe Sier.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Benoît Tonson.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'addiction au sexe, c'est donc le thème de notre dossier cet après-midi avec mes invités, les psychiatres François-Xavier Pouda et Philippe Bourneau. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
François-Xavier Pouda, le sujet peut faire sourire en apparence et pourtant ce trouble de l'addiction sexuelle est douloureux et très envahissant pour les personnes dépendantes. Hein.
Tout à fait, c'est vraiment une pathologie qui est assez fréquente, malgré tout, 5% de la population. 5% de la population en moyenne, avec une grande souffrance. C'est pour ça qu'on les différencie des pervers ou d'autres problèmes d'hypersexualité. C'est vraiment une pathologie extrêmement douloureuse, en souffrance, avec une honte, une tristesse et des conséquences qui parfois envahissent le quotidien de la personne.
Comment on arrive à évaluer justement le nombre de personnes concernées? Alors comment on fait le calcul?
Il y a eu des statistiques qui sont faites à partir de cas cliniques et à partir de sondages qui permettent à des gens qui sont suivis en consultation de voir un petit peu quelles sont leurs problématiques et de définir comme ça, en moyenne, en fonction des hommes et des femmes, parce qu'il y a une plus grande quantité d'hommes que de femmes, si je puis dire, et qui font que, on dit classiquement, pour 7-8 hommes, il y a une ou deux femmes, et il y en a de plus en plus d'ailleurs, de sexe féminin. Et donc c'est vraiment un problème qui envahit le quotidien, au même titre que les d'autres formes d'addiction comportementale, que l'on verra peut-être après.
Philippe Bourneau, pourquoi les hommes sont plus largement concernés que les femmes alors?
Alors peut-être l'idée d'hypersexualité est quand même aussi différemment répartie. J'oserais pas dire donc qu'il y a plus de désir masculin, mais il y a une pression aussi de la société. On voit de quelle façon l'image de la sexualité est différemment répartie entre les hommes et les femmes. Et là, je crois que en complément de ce que vient de dire François-Xavier, il y a quand même cette idée de l'hypersexualité qui reste dominante dans la société et qu'il faudrait un petit peu relativiser, on va le faire.
Et on va en discuter donc avec vous dans un instant et avec les messages des auditeurs. Et à la une de la science aujourd'hui, des centaines de poches de méthane confinées dans le plancher océanique et qui menacent de percer en raison du réchauffement global. Depuis plusieurs années, les scientifiques surveillent des fuites de méthane qui s'échappent du fond de la mer en Arctique. Et ils sont de plus en plus inquiets, ces scientifiques, du devenir de ces réserves supplémentaires de gaz à effet de serre. Philippe Sier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour commenter ces deux publications parues d'ailleurs coup sur coup dans la revue Science et dans les PNAS cette semaine. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Alors, que sont précisément ces dômes de méthane qui se forment là dans les eaux de l'Arctique au nord de la Norvège?
Eh ben, en fait, on a découvert dans cet article que le fond de la mer de Barents, entre la Norvège et le Spitzberg, est tapissé à la fois de petites montagnes sous-marines et de cratères. Et ces cratères se sont formés, en fait, par l'explosion d'énormes masses de bulles de méthane qui proviennent de ce qu'on appelle les hydrates de méthane, qui étaient enfermés un peu plus profond dans le plancher océanique.
Alors, pourquoi le gaz s'accumule précisément à cet endroit?
Alors, il s'est accumulé à peu près à 400 mètres de profondeur du temps où il y avait des glaciers sur le nord de la Scandinavie, aussi sur le Spitzberg. Et ces glaciers, en fait, avaient maintenu les hydrates de méthane dans le sol. Et puis, quand les glaciers se sont retirés, en fait, ces hydrates se sont libérés. Ils ont d'abord formé des canaux, puis ils ont poussé le sol sous-marin pour faire des petites montagnes. Et ensuite, ces montagnes ont explosé, de sorte qu'on voit, en fait, que le fond de la mer est truffé de ces cratères qui ont relâché, il y a longtemps, hein, il y a 15 000 ans, d'importantes quantités de méthane dans l'atmosphère, probablement, quand ça s'est produit.
Est-ce qu'aujourd'hui, de nouvelles explosions pourraient avoir lieu, des dômes pourrait encore craquer?
Alors, peut-être pas de manière aussi catastrophique, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de calotte polaire sur l'Europe du Nord. Par contre, il y a quand même des régions des plateaux côtiers, notamment au nord de la Sibérie, dans l'océan Arctique, où il y a encore des fonds sous-marins gelés qui sont en train de se dégeler rapidement. Et là encore, il y a des hydrates de méthane qui pourraient apporter effectivement des contributions un petit peu catastrophiques à l'augmentation du méthane atmosphérique. Pourtant, jusqu'à présent, on n'a quand même pas trouvé qu'il y a d'explosions catastrophiques fréquentes, en tout cas dans cette région.
Donc le réchauffement climatique agit aussi dans les fonds marins?
Oui, de manière un peu insidieuse, en fait, si on regarde les données qui ont été collectées dans ces deux publications, on voit des petits panaches, des fuites de méthane continues, mais l'idée c'est que tant que les bulles sont petites, en fait, elles n'arrivent pas à traverser l'épaisseur de l'océan et elles sont réduites et ça part pas sous forme de méthane dans l'atmosphère. C'est vraiment quand on a des explosions et des cratères que les bulles sont suffisamment grosses et que là, ça dégage du méthane dans l'air.
Est-ce qu'il y a assez de méthane dans ces sols pour aggraver le réchauffement tel qu'on le connaît aujourd'hui ou pour changer les scénarios ?
Alors, dans ces sols, ce qu'on appelle les clatrates, c'est vraiment une source, un stock très important de méthane, hein, qui est pour l'instant maintenu gelé. Mais dans un futur lointain, si le climat des régions arctiques se réchauffe fortement, ça peut effectivement contribuer à une source qui serait incontrôlable, hein, d'émissions de méthane supplémentaires dans l'atmosphère. Mais c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est peut-être plus pour la fin du siècle si le climat se réchauffe beaucoup.
Est-ce qu'on trouve également ce type de structure sur la terre ferme ?
Alors, il y en a, mais ils sont plus profonds dans les pergélisols, les sols gelés sur les continents, et ils sont en principe plus stables. On a trouvé un ou deux cratères dans le Yamal, au nord de la Sibérie, sur Terre, qui suggèrent le même type de possibilité d'explosion de méthane, mais c'est beaucoup plus rare que tous les trous qui tapissent le fond de la mer de Barents qu'on a découvert, qui date d'il y a à peu près 15 000 ans.
Philippe Sieyès, ce dont vous parlez là, est-ce que ce sont ces images qu'on voit de ces cratères, ces espèces de poches gigantesques en Sibérie ?
Oui, alors on voit des... En Sibérie, il y a que vraiment sur le continent, il y a que deux endroits où on a observé ce type de cratère. Mmh. Et par contre, dans le fond de l'océan, dans l'article qui a été publié dans la revue américaine Science, il y en a partout, hein, vraiment entre le Spitzberg et le nord de la Norvège. Ils sont pas très grands, ils font 500 mètres de large, mais c'est quand même des événements spectaculaires.
Hein. Et si du méthane venait à fuir de manière importante dans le fond des océans, est-ce qu'il se dissolverait dans l'océan lui-même ou il atteindrait l'atmosphère ?
Alors tout dépend en fait de la taille des fuites. Si ce sont des fuites petites à moyennes, en général les bulles de méthane, le méthane ne parvient pas à la surface de l'atmosphère. Il est mangé par des bactéries qui arrivent à l'oxyder. Donc ça fait du CO2 qui reste dans l'océan. Par contre, si on a vraiment des fuites importantes et catastrophiques, ça fait des grosses bulles qui arrivent à traverser rapidement l'épaisseur de l'océan et ensuite à être redonnées dans l'atmosphère.
L'œil rivé sur les bulles, donc Philippe Sieyès, hein, il faut surveiller ça de très près.
Et oui, surtout les grosses bulles. Hein.
Voilà, et c'est ce que font donc les scientifiques. Merci pour votre éclairage avec ces deux publications donc, qui viennent de sortir dans Science et dans les PNAS. Axel, on a peut-être un rendez-vous à indiquer aux auditeurs, hein, parce que demain, on va vivre une journée très particulière avec une grande découverte.
On peut le dire comme ça, elle ne sera pas à la une de la science, elle sera dans toute l'émission demain. Et par contre, on va la retrouver dans un Facebook Live. Je vous donne deux indices, ça va parler de nos origines, les hommes, et on va vous montrer des fossiles qui sont très intéressants.
Voilà, et c'est donc dans le domaine de la paléoanthropologie avec une découverte qui va vraiment changer la donne. On va certainement revoir tous les cahiers scolaires et tous les livres scolaires, et on aura les découvreurs, justement le découvreur, entre autres, de cette publication demain dans l'émission. On vous en dit pas plus, hein, parce
on
que c'est sous embargo jusqu'à ce soir, 19h. À partir de 19h ce soir, tout le monde sera au courant de ce qui a été découvert autour des origines de l'homme. Et puis on consacrera donc l'émission intégrale demain entre 14h et 15h. Et puis un Facebook Live à 17h. On sera au Collège de France et on aura des choses à vous montrer.
Et on vous attend avec impatience.
À demain donc. Et dans un instant, l'addiction sexuelle. Nobody pray for me. It's been a day for me. Yeah, yeah. Remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my bass stuff. Ooh, that pussy good. Won't you sit it on my taste buds? I get way too petty. Won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down. We playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem. I quit this.
My left stroke just went viral. Right stroke put lil' baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Bitch, sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on women? Get the fuck off my stage, I'm the semen. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still a take you down right on your mama couch and polo sock. Ay, this shit way too crazy, ay. You do not amaze me, ay. I blew cool from AC, ay. Obama just paged me, ay. I don't fabricate it, ay. Most of y'all be faking, ay. I stay modest about it, ay. She elaborated, ay. This that Grey Poupon, that Avion, that TED Talk. Watch my soul speak, you let the meds talk. Ay, if I kill a nigga, it won't be the alcohol. Ay, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Hold up, bitch, sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch, sit down. Be humble. Hold up, bitch, sit down. Be humble. Hold up, bitch, sit down. Be humble. Hold up, sit down. Be humble. Hold up, bitch, sit down. Bitch, sit down. Be humble. Sit down.
Humble avec Kendrick Lamar.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
L'addiction sexuelle dans le dossier cet après-midi, ou lorsque le plaisir se transforme en obsession et en souffrance, avec François-Xavier Pouda, psychiatre sexologue. Vous dirigez une consultation d'addiction sexuelle au CHU de Nantes et donc vous avez publié « Sexe sans contrôle », ça sort aujourd'hui chez Odile Jacob. Et Philippe Bruneau, vous êtes psychiatre sexologue, vous nous accompagnez tous les mois dans l'émission et vous êtes l'auteur avec Laetitia Corinne de « Sex Story », la première histoire de la sexualité en bande dessinée. Ça fait déjà un an que la BD est sortie, énorme succès pour vous, et ce livre qui est paru, c'est BD aux éditions Les Arènes, avec les auditeurs qui nous rejoignent, les messages sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. François-Xavier Pouda, depuis quand d'abord existe votre consultation d'addiction sexuelle au CHU de Nantes, et est-ce qu'il en existe beaucoup en France ?
Il n'existe pas beaucoup de consultations. Il y a des grands centres à Paris notamment, à Marmottan par exemple, qui travaillent beaucoup sur les addictions sexuelles, les addictions comportementales en général. À Nantes, ça fait quelques années maintenant où on a mis en place des protocoles de traitement sur les, à partir de consultations, de groupes. On va travailler sur ce qu'on appelle, d'un mot peut-être un peu compliqué, les restructurations cognitives, c'est-à-dire la manière de penser que les addicts sexuels ont, qui est différente de la manière classique de penser la sexualité pour quelqu'un qui serait, entre guillemets, normal.
Donc vous disiez 5% de la population serait concernée. Il y avait une vraie demande alors ?
Il y avait une vraie demande, et je pense que l'éclatement d'Internet et de tout ce qu'il peut y avoir au niveau de la société, on va dire, qui est de plus en plus addictogène et de plus en plus allié au virtuel, a amené des personnes à se scotcher sur les écrans et à passer leur journée à être envahis par des images et à être quasiment hypnotisés pour certains pendant des heures sur les comportements à caractère pornographique. Après, ça peut aller vers d'autres choses, mais c'est une particularité qui est assez récente quand même.
Ouais. Philippe Bruneau, est-ce que vous voyez beaucoup de patients venir consulter pour des addictions sexuelles ?
Oui, alors, on va y venir, c'est justement, si les gens consultent, c'est qu'il y a une souffrance. Et c'est là qu'on va peut-être faire, on va essayer de définir ce qu'est l'addiction sexuelle, parce que c'est devenu un espèce de concept populaire. On en parle beaucoup, mais si on regarde bien, on en parle beaucoup depuis une dizaine d'années. Le net, et surtout avec le net, l'accès très facile à des contenus pornographiques vont avoir changé la donne. C'est-à-dire qu'il faut penser que la sexualité est d'abord apprise. elle est apprise au fil de nos expériences, c'est-à-dire comportementalement apprise, et elle est socialement construite. C'est-à-dire qu'en fonction des images de la société, il n'y avait pas le même type d'addiction ou autant d'addiction. En 1980, par exemple, où il y avait peu d'images de la sexualité dans la société. Aujourd'hui, il y a un accès très rapide. Et peut-être, François-Xavier, pourras-tu nous éclairer là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un fond d'addiction qui, à ce moment-là, se focalise sur la sexualité, ce qu'elle est, et que quand il y a moins de représentation dans la société, peut-être qu'il y en a moins d'expression sur ce plan-là? Oui,
c'est l'objet d'un message d'Alain, d'ailleurs, qui nous dit ceci. Est-ce que l'hypersexualisation de notre société, aujourd'hui, n'a pas justement d'incidence directe sur ces addictions?
Sûrement, même si l'hypersexualité n'est pas un terme suffisant pour définir l'addiction, c'est malgré tout quelque chose que l'on retrouve de plus en plus du fait, effectivement, de la sexualisation à outrance, à tous les niveaux de la sexualité. Le contenu pornographique, des images pornographiques ou des images sexuelles sur les écrans est quelque chose d'assez phénoménal actuellement. On considère qu'un enfant moins de 13 ans, il y a 15 à 20% des enfants qui ont déjà vu des images pornographiques avant 13 ans. Donc ça prouve qu'il y a toute une nouvelle, un bain, on va dire, d'émotions sexuelles qui peuvent être vécues très tôt et de manière souvent...
C'est plutôt inquiétant ça pour l'avenir, non? De toute une génération qui sera née dans ce contexte d'images très abondamment diffusées?
Ben, surtout que la gratuité, la diffusion et l'évasion que ça peut entraîner, ça isole la personne de tout comportement interactif sexuel avec quelqu'un d'autre. Donc d'aller vers l'autre pour essayer de découvrir, de construire, de co-construire une sexualité, donc c'est quelque chose qui est assez de repli sur soi, qui est assez dangereuse, on va dire.
Philippe.
Moi j'ai le souvenir sur un plateau télé, parce que c'est là qu'on voit même des choses qu'on ne voit pas en cabinet. Je me souviens avoir fait une émission sur M6 qui était sur la sexualisation, l'entrée dans la sexualité des jeunes de banlieue, de la banlieue parisienne, et je me souviens avoir vu un jeune garçon qui avait 16 ou 17 ans qui était très addict sexuel à des images et avec des compulsions vraiment très fortes, alors qu'il n'avait pas commencé sa vie sexuelle relationnelle.
C'est ça, oui. Alors justement, à partir de quand les gens viennent consulter? C'est quand il y a souffrance, précisément?
Quelqu'un qui n'a pas de souffrance. Et d'ailleurs, je crois que ce serait important de préciser ici, et ça n'est pas souvent, ce qu'est l'addiction sexuelle. C'est l'image qu'en ont les gens populairement. D'abord, tiens, si on se plaçait bien antérieurement, il y a 20, il y a 30 ans, qu'est-ce qu'on disait? On disait de certaines personnes, c'est des obsédés sexuels. Après, on a amener le terme d'hypersexualité. C'était pas forcément des addicts, mais enfin les obsédés, c'est ceux qui ne pensaient qu'au sexe. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui ont une forte réalisation sexuelle. C'est pas forcément des addicts, ils ne souffrent pas. S'ils ont une forte ils ont une forte activité sexuelle, tout simplement s'ils n'en souffrent pas du tout, s'ils font pas souffrir les autres, je vois pas très bien qui ça pourrait gêner.
François-Xavier Pouda, c'est ce que dit justement Yannick dans un message. Je suis très actif sexuellement, plusieurs partenaires par semaine, mais je n'ai pas l'impression d'avoir une dépendance au sexe. Oui. Mais comment en être sûr?
Justement, l'un des signes, et c'est pour ça que c'est très important au niveau justement des diagnostics, il existe notamment ce qu'on appelle l'échelle de Goodman, qui était quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les addictions sexuelles et qui a
l'échelle
défini
des années 90,
voilà,
c'est ça,
et qu'on retrouve encore actuellement pour définir d'autres formes d'addiction comportementale, et qui avait donné un certain nombre de critères qui étaient bien précis. Et les critères les plus importants, c'est la perte de contrôle. C'est la répétition de manière pulsionnelle des comportements quasiment toujours identiques. C'est l'envahissement du quotidien. C'est malgré les efforts pour pouvoir freiner, l'incapacité à freiner. Un syndrome de manque, c'est-à-dire on est en manque quand on ne fait pas ce comportement sexuel. Et avec, là encore, comme dans d'autres formes d'ailleurs de toxicomanie, entre guillemets, le caractère de la tolérance, c'est-à-dire augmentation de l'effet pour avoir des effets supplémentaires. Donc il faut augmenter.
La suétude.
Voilà.
On va écouter justement deux témoignages extraits d'un documentaire qui avait été diffusé en 2015 sur France 5, deux témoignages autour des sex addicts.
Je ne me souviens pas du tout des visages, des yeux, des expressions, des regards, je ne me souviens absolument pas. Je suis aujourd'hui incapable de dire avec combien de personnes j'ai fait l'amour. J'en ai aucune idée. J'en sais rien du tout. Et je crois que ça me fait peur de le savoir.
Être sex addict, c'est se perdre dans tous ces corps, dans toutes ces rencontres. C'est déshumaniser la sexualité. C'est quelqu'un qui a plus de liberté.
Voilà, deux témoignages qui illustrent bien, hein, au fond, ces critères dont vous parlez, François-Xavier Pouda, c'est-à-dire à la fois la souffrance et la perte de contrôle.
Tout à fait.
C'est vraiment ce qui caractérise l'addiction.
Oui, c'est tout à fait ça. Et on le voit dans le premier témoignage, d'ailleurs, la personne qui dit « je ne sais plus avec qui j'étais ». C'est-à-dire que c'est vraiment l'utilisation de l'autre comme, j'allais dire, entre guillemets, un objet partiel. C'est-à-dire c'est un bout de quelque chose. Je peux me souvenir d'un œil, d'un bras ou d'un mot, mais uniquement ça. C'est même pas la personne à part entière.
Philippe Bruno.
Moi, je ferais presque un contraste avec l'image populaire qui a été véhiculée. Par exemple, il y a des grandes affaires médiatiques. Je pense à Tiger Woods qui dit il est addict sexuel et il va se faire soigner. En fait, il est dans une histoire de séduction multiple. Moi, je n'ai pas vu d'éléments vraiment d'une addiction sexuelle. Par contre, ça lui permettait, c'est une sorte d'alibi qui lui permettait de renouer avec son mariage, effectivement, de se dédouaner. Il y a un homme politique très connu dont on a parlé.
Strauss-Kahn.
Qui avait, voilà, je ne nomme pas parce que je ne le connais pas personnellement.
Vous le nommez dans un article quand même.
Je l'ai fait souvent, j'ai souvent écrit des commentaires à ce propos. Je ne suis pas certain qu'il soit un addict sexuel, c'est un hypersexuel, mais l'addiction sexuelle permettrait-elle d'être ministre, d'être directeur du FMI? Non, l'addiction sexuelle, comme beaucoup de compulsions, va gêner la vie, va l'emplir. On n'a pas l'esprit disponible pour s'occuper des finances internationales.
Bon, en tout cas, on verra les fonctions, hein, justement, de l'addiction sexuelle, parce qu'il y a des choses tout à fait particulières à en dire, et puis les messages qui arrivent sur le site de l'émission.
Nous sommes Marcia Baila, les cracheurs de feu de l'enfance, le trajet qui n'en finit pas, et la banquette arrière immense. Nous sommes Riverside Park, les pelouses dans les centres-villes. Nous sommes les beaux jours qui débarquent, nous sommes les amours imbéciles. Sur notre enfant, les mêmes alarmes pour les choses qui nous alarmaient. Nous sommes la vie ce soir, nous sommes la vie à cet instant, et je te suis sur le trottoir, et je te regarde à présent.
Didi, nouvelle au programme.
Bonjour Didi.
Mon parrain de Narcotique Anonyme m'a dit de venir ici. Parce que mon seul moyen de communiquer avec les hommes, c'est le sexe. Et je me souviens très bien que ma mère m'avait passé un savon parce que je m'étais jetée sur mon cousin alors que je n'avais que 4 ans. J'ai dépucelé mon petit voisin par la force quand j'ai eu 12 ans. Quand j'ai eu 20 ans, 2 avortements. Et des partouzes, et des orgies dans tous les coins. Alors, aujourd'hui j'ai 30 ans, je vis seule, sans homme, sans enfant, et Je viens de perdre la meilleure amie que j'avais au monde parce que je me suis fait son père. Il doit y avoir un autre moyen. Il y en a forcément un, sinon j'ai plus qu'à me flinguer. Donc, voilà, c'est moi. Merci.
Tu peux y arriver.
Voilà, extrait du film Sex Thérapie, sorti en 2013 pour l'addiction sexuelle, le thème de l'émission cet après-midi avec François-Xavier Pouda et Philippe Bruno, tous les deux psychiatres. François-Xavier Pouda, ces personnes justement que vous voyez en consultation, comme dans l'extrait de ce film, sont pas des pervers, hein, on le disait tout à l'heure, ce sont juste des personnes en souffrance et qui veulent changer aussi. Hein.
Tout à fait. Les pervers, on va dire classiquement, dans le mot classique pervers, on les voit pas en consultation, puisque par principe, ils ont du plaisir dans leur fonctionnement, et ils n'ont pas du tout de recherche, de remise en question de leur manière de se comporter sexuellement, donc on les voit jamais, sauf peut-être par le biais de la justice, lorsqu'ils ont des obligations de soins. Ouais. En dehors de cela, ceux qui ont des comportements qui pourraient faire penser aux pervers, on les voit dans l'exhibitionnisme compulsif, dans le frotteurisme compulsif, dans le voyeurisme compulsif, dans la pédophilie compulsive, sont des personnes qui sont en très grande souffrance. Et ceux-là ne sont pas des pervers, ce sont des personnes qui ont une sexualité, on va dire, excessive et anormale dans un comportement sexuel particulier, et que l'on voit cela en consultation.
Ouais. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Un sexe sans contrôle, surmonter l'addiction, avec Martine Lagadec, qui vient de paraître chez Odile Jacob. Philippe, peut-être pour vous cette question de Jean, est-ce que cette addiction peut se produire à l'intérieur d'un couple par l'un des membres, ou est-ce juste de l'hyperactivité?
Alors, c'est souvent une accusation, je vais dire, qui est portée par l'un des membres. Et on le voit très souvent avec la pression du désir masculin. Autrefois, une femme pouvait dire, tu es un obsédé sexuel, tu dois être addict sexuel, ayant vu, par exemple, une fréquentation plus ou moins compulsive, notamment de sites porno. Très souvent d'ailleurs pour la masturbation. Et c'est que peut-être t'es insatisfait. Ça veut pas forcément dire addiction. Mm-hmm. Ce que je voudrais dire, en complément un petit peu ce que tu venais de dire, François-Xavier, c'est que, et c'est important pour les auditeurs de se situer dans quelque chose qu'on voit pas souvent. Le plaisir n'est pas le moteur de l'addiction sexuelle. Mm-hmm. Et c'est peut-être même une des choses principales. Mmh. Parce que tout le monde va dire, mais ce type, si pas c'est majoritairement des hommes, c'est le plaisir, il est là par une sorte de perversion qui va... Non, c'est la souffrance qui est le moteur. Et son comportement est fait pour apaiser la souffrance et les tensions.
Alors justement, qu'est-ce qu'on va chercher au fond dans ce comportement d'addiction sexuelle, François-Xavier Pouda.
Il y a plusieurs fonctions dans l'addiction sexuelle. On pourrait croire effectivement qu'à la première fonction soit la satisfaction d'un plaisir. Non, c'est la satisfaction d'un besoin, d'un besoin compulsif. La plupart du temps, les personnes peuvent utiliser l'addiction sexuelle pour apaiser une tension, pour éventuellement s'affirmer, pour se déstresser, pour exister, pour remplir des vides, pour cicatriser des traumatismes de l'enfance. Et donc, on en a trop souvent l'impression que ça peut simplement être utile à donner du plaisir. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe, c'est que c'est pas du tout du plaisir. C'est la satisfaction d'un besoin, et c'est souvent l'apaisement d'une douleur immédiate. C'est pour ça que plus la réponse immédiate est dans un apaisement de quelque chose, ou dans la confirmation de la fonction, à court terme, c'est satisfaisant et ça va être récurrent. Mais, petit à petit, les conséquences vont devenir tellement désastreuses que la courte période de satisfaction va être de plus en plus restreinte.
Arnaud à Paris demande si l'infidélité est à mettre en lien avec l'addiction au sexe.
Le lien en tant que conséquence ou cause, c'est un facteur à risque, si vous voulez. Mais il y a beaucoup de gens qui sont infidèles et qui ne font jamais des addictions. Il y a des gens qui font des addictions qui ne sont pas forcément infidèles, ce qui... On pourrait déterminer ce que c'est que l'infidélité. Est-ce que le fait de regarder des vidéos, du porno est déjà de l'infidélité, ou d'avoir des pensées fantasmatiques sur quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est déjà de l'infidélité mentale, entre guillemets, ou psychique? Mais entre guillemets, c'est un facteur de risque ou c'est un facteur collatéral, mais qui n'entre pas dans le jeu de l'addiction.
Yannick demande, est-ce qu'il y a une prévalence plus importante chez les homosexuels que chez les hétérosexuels du fait d'une approche différente de la sexualité? Je ne sais pas s'il y a des enquêtes qui ont été menées sur ce sujet. Vous avez des personnes homosexuelles qui viennent aussi en consultation, de la même façon donc les hétérosexuels. On va écouter justement un autre extrait d'un documentaire cette fois-ci, les frotteurs dans le métro. Alors, vous en parliez, ça c'est un comportement tout à fait particulier qui avait été diffusé justement sur France 2 dans le cadre d'un reportage autour des agressions sexuelles en 2015.
J'ai senti quelque chose sur moi, au niveau de mes fesses, dans le métro, à plusieurs reprises.
Et là, comment vous avez réagi ?
Je me suis décalée. Ça fait au moins la quatrième fois que ça m'arrive dans la ligne 13. C'est régulièrement.
Et ce n'est pas la seule victime. À la sortie du métro, presque toutes les femmes peuvent en témoigner.
J'ai eu droit à l'imperméable dans le métro, j'ai eu droit à ce qui se frotte. J'ai dit, mais monsieur, arrêtez, vous me collez. Et quand je l'ai poussé, il me dit, sale pute.
Dans mon entourage proche, je pense qu'il y a au moins une expérience par fille qui prouve qu'effectivement, on a déjà eu une mauvaise expérience dans le métro.
Voilà, et donc il y a un mot pour ça, vous l'avez employé tout à l'heure, le frotteurisme. C'est pas très beau, mais pourtant ça fait partie justement des pathologies autour de l'addiction.
Dans l'addiction sexuelle, on différencie ce qu'on appelle les addictions sexuelles à comportements sexuels excessifs, c'est-à-dire par nos sociétés, on peut considérer que ces comportements sont normaux, mais augmentés en quantité et en perte de contrôle. Et à côté, il y a l'addiction sexuelle à comportements sexuels anormaux, dont font partie les déviations, comme on disait tout à l'heure, les perversions compulsives, avec notamment le frotteurisme, l'exhibitionnisme.
Mais il y a souffrance chez ces personnes?
Ben oui, certaines personnes qui ne sont pas donc justement des pervers souffrent énormément de leurs compulsions, et j'en ai suivi un certain nombre, des exhibitionnismes compulsifs qui sont dans une lutte permanente pour éviter, ça fait partie de la définition même de l'addiction, pour éviter quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler.
Oui, Philippe. Puis ça se rapproche aussi de la nature même de ce qu'est la sexualité ou de la décharge sexuelle, qu'elle soit orgasmique ou... c'est une montée en tension de l'excitation qui est suivie d'un relâchement. Et ça, c'est anxiolytique. C'est-à-dire que, et on le vit tous, dans quel que soit le mode de relation, d'en faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, on sent bien cette montée en tension et ce relâchement... Qu'est-ce qu'on est bien ? La première fonction, c'est anxiolytique. C'est pour cette raison qu'il y a une forte compulsion de masturbation, par exemple, et les sites porno servent essentiellement à produire cette excitation. Mais la fonction même de la sexualité, c'est qu'elle est anxiolytique. Alors après, elle peut être utilisée de façon, dans notre société, assez intense, elle est bien acceptée. Dans d'autres sociétés, elle était peu acceptée. Et c'est effectivement quand ça devient empêchant, parce que c'est, et puis relationnellement empêchant, qu'on va parler de pathologie, par exemple. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier ce côté anxiolytique. J'ai même, si dernier cas, ça m'évoque tout d'un coup, j'ai rencontré à deux ou trois reprises, mais notamment, et chez des femmes, alors je ne sais pas, tu connais peut-être ça, une femme par exemple qui a une vraie structure bipolaire et qui soigne ses accès de bipolarité par des masturbations intenses. Elle s'arrête de travailler pendant 3-4 jours et cette compulsion à la masturbation lui fait... est vraiment antidépressive.
C'est 3-4 jours de masturbation, vous voulez dire ?
Et elle s'isole, et tu connais cela, moi j'en ai rencontré quelques fois, et c'est-à-dire qu'elle a trouvé un système qui fait qu'elle évite l'accès dépressif à ce prix-là, et j'en suis certain que c'est thérapeutique.
François-Xavier Pouda, on va parler avec vous dans un instant des causes et des facteurs de vulnérabilité, vous l'évoquez dans cet ouvrage, et puis bien sûr la prise en charge possible, parce que évidemment, quand on prend en charge, il y a des effets aussi positifs sur le fait de vouloir surmonter ces comportements qui font souffrir, on l'a bien compris, les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr.
Isso aí, rapaziada! Esse é o bonde da CDD, alô Cidade de Deus! Se liga! Presta atenção! Vamos que vamos! Deixa comigo! Sou morador da favela, também sou filho de Deus. Não sou de choro, mazelas, mas meu amor me perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já de Deus, só que Deus esqueceu de olhar. A
cria reforma dura por. Voltamos saindo de cena. Esse é o bonde da CDD. Presta atenção. Homem não de brincadeira, não. Filho chora, mas não vê. Atividade no serviço. Olha o processo. Olha o processo. Se liga. Segura que é badés. Se não aguentar, só fica liso. O peixe é grande. É isso aí, rapaziada. E Oxalá proteja o caminho de todo mundo. Vai com Deus.
C'est où George convite par la vida.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Philippe Bruneau, François-Xavier Pouda, mes invités pour parler donc des addictions sexuelles avec ces messages. Pascal nous dit ceci, des statistiques des moins de 12 ans montrent que ce sont les deux tiers des jeunes qui ont visualisé régulièrement des films porno. Et les réactions des jeunes ados, surtout masculins, c'est le porno, c'est le moyen d'apprendre la sexualité. François-Xavier Pouda.
C'est le problème de l'apprentissage que l'on fait seul dans son coin. La manière dont on peut effectivement apprendre. Sauf que les images montrées dans les films pornographiques n'apprennent pas forcément beaucoup de choses sur la sexualité. Ils apprennent une forme de sexualité avec des images de femmes, d'hommes, homosexuels, hétérosexuels, qui sont pas forcément l'image de la réalité qu'ils vivront plus tard. Donc, je suis pas forcément sûr que dans certaines circonstances, ça soit forcément positif.
Attention aux images, Philippe Bruneau.
Alors, ça montre effectivement d'abord que la sexualité est apprise. Oui. Et si elle est apprise, ce qu'on ne sait pas toujours, il faut un modèle. Alors, on va dire, c'est pas le meilleur modèle, c'est peut-être le plus mauvais, mais on doit faire avec. Et la chose qui est compliquée, je crois qu'il faut le dénoncer, je le fais régulièrement, c'est qu'il n'y ait pas d'éducation à la sexualité qui pondère vraiment ça ou bien. Notamment, je vais le dire tout simplement, là, ça, on est un petit peu en dehors de notre sujet, mais que montre le porno? Sinon une sexualité où les personnes arrivent immédiatement excitées. Il n'y a pas ce qui est d'ailleurs l'apprentissage des contemporains de la sexualité relationnelle, c'est-à-dire toute la phase de préliminaire. Il n'y a pas dans le porno. Et donc le modèle que vont apprendre les gamins, puisque on dit effectivement 11 ans, 1 sur 2, 1 sur 3, peu importe, c'est en fait une sexualité qui est basée sur une excitation existante. Or, tout ce que l'on sait, les difficultés de la sexualité, quel que soit l'âge, c'est la difficulté d'excitation pour l'un ou pour l'autre. Donc, tout ce qui serait important dans la sexualité à montrer, ça serait la phase précédente qui n'est effectivement pas...
Oui. François-Xavier Pouda, les facteurs de vulnérabilité, alors, parce qu'ils sont clairement identifiés quand même aujourd'hui. Et d'abord, c'est l'histoire familiale, hein, c'est ce que vous montrez. Et puis aussi, cette théorie de l'attachement hein, qu'on retrouve aussi dans les explications possibles.
En dehors du bain sociétal de la société, donc des écrans et du virtuel, c'est pas parce qu'on regarde du virtuel qu'on sera forcément addict au virtuel.
Absolument, il y a l'histoire singulière de chacun.
Il y a l'histoire de chacun et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation directe entre la manière dont on a baigné tout petit dans notre bain d'insécurité. On est tous des insécures, hein. on fait tous un peu ce qu'on peut avec les moyens du bord. On a des creux, des trous, des bosses, des plaies cicatrisées plus ou moins, des gens plus ou moins qui ont subi des traumatismes. Et avec ça, on vit dans un système d'insécurité et les moyens que l'on va avoir dans l'enfance, l'adolescence, c'est de se récupérer comme on peut, avec les moyens du bord, avec donc des pseudo-thérapeutiques, des objets pseudo-thérapeutiques qui vont nous aider à nous stabiliser, à nous sécuriser.
Ça peut être l'addiction.
Et l'addiction est un moyen, comme d'autres maladies ou d'autres problèmes, ce sont des moyens pour pseudo-régler des problèmes qui ne seront jamais réglés. Comme ça, on va dire que l'addiction devient une sorte de bouée de sauvetage pour des personnes qui ne savent pas nager, sont des pseudo-bouées de sauvetage pour s'en sortir. Et donc l'addiction sexuelle...
Donc il y a bien une fonction, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe Bruneau. Ouais.
Voilà, ça, c'est une fonction pseudo-thérapeutique, utile. C'est pour cette raison d'ailleurs que tous les traitements basés sur les sevrages d'addiction ne fonctionnent jamais à long terme, parce que si on enlève la bouée mais que la personne ne sait toujours pas nager, elle va couler. Ouais. Donc c'est important.
Alors comment peut-on faire pour limiter ces pensées sexuelles lorsque celles-ci nous obsèdent, demande Kazou sur Twitter, et comment se libérer de l'addiction sexuelle?
Alors, il existe des programmes de traitement, notamment en thérapie comportementale et cognitive. On va travailler sur les schémas de pensée. C'est-à-dire que, en thérapie, on peut demander à la personne d'apprendre à noter par écrit, donc, les différents systèmes de pensée. Il faut savoir que dans la conduite addictive, le moment entre l'envie que j'ai de passer à l'acte et le passage à l'acte, c'est en quelques millionièmes de secondes, en quelques secondes, et plus l'objet est présent parce qu'on est devant un écran, parce qu'on peut cliquer, plus c'est rapide, plus l'addiction va devenir importante, le caractère addictogène va être important. Donc, tout ce que l'on va mettre en place, c'est d'essayer de permettre à la personne de prendre conscience de ses émotions qui sont présent au moment du passage à l'acte, et aussi des systèmes de pensée. Ça va pas durer longtemps, c'est pas très grave, ça va me faire du bien. Des pensées qui sont en même temps des pensées mensongères, des pensées permissives, et qui servent uniquement à maintenir le système en place. Donc on va leur permettre de décortiquer leur schéma et leur cycle de fonctionnement au niveau de l'addiction.
Ouais. Et après, une fois qu'on a opéré?
Alors après, quand ils ont pris conscience de ces systèmes de pensée, on va travailler avec eux, on le fait dans nos groupes à Nantes, on va travailler avec eux sur la modification de ces schémas de pensée, d'autant plus qu'ils prennent conscience que leur vision qu'ils ont, par exemple de l'autre sexe, la vision qu'ils ont de la relation, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, sont des visions extrêmement perturbées et dysfonctionnelles qui les amènent à croire que la sexualité va leur apporter satisfaction. Et donc, on va travailler sur ces schémas de pensée, plus ou moins conscients, qui vont les aider, petit à petit, par une mise à distance, qui vont les aider à sortir de leur conduite addictive et de leurs croyances irrationnelles qu'ils ont par rapport à la sexualité.
Philippe, comment vous prenez en charge les personnes qui viennent consulter, alors, pour les aider?
Je fais moins que le fait François-Xavier, mais ça montre bien, voilà, dans toutes nos prises en charge, que d'abord, c'est un vrai travail, et que ça se fait pas comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, on est face à des mécanismes que la psyché a mis en place. Le premier mécanisme, l'organisme va mettre en place des systèmes anxiolytiques. L'un des grands systèmes anxiolytiques, c'est l'obsession. Et en fait, les sujets sont très mal parce qu'ils sont obsédés par ces pensées, qu'elles doivent se réaliser, qu'ils en sont carrément l'esclave. Et on va devoir casser les mécanismes obsessionnels. Et c'est tout ce qui vient d'être évoqué. Ce sont des stratégies cognitives pour casser les obsessions qui elles-mêmes, c'est une construction très complexe, qui elles-mêmes étaient déjà un mécanisme protecteur. Hein, même si ça devient envahissant ensuite, oui. L'organisme les met en place pour essayer de calmer l'envahissement de l'angoisse.
Et donc il y a des choses très fortes qui étaient emboîtées déjà. Donc il faut essayer, voilà, de les séparer.
Il va y avoir des mécanismes naturels, que ce soit par exemple de phobie, d'évitement ou d'obsession, qui sont des mécanismes que l'organisme met en place. Et il se trouve à ce moment-là avec un carcan très rigide. Ah, je risque rien, mais je peux plus bouger dans mon armure. Et on va travailler sur enlever l'armure par des stratégies, notamment cognitives.
Alors ça, c'est la théorie, évidemment. Hein. François-Xavier Pouda, dans cette consultation que vous dirigez donc au CHU de Nantes, quels sont les résultats alors sur les personnes qui viennent vous voir? Est-ce que vraiment on arrive durablement à aider quelqu'un?
Si on prend en charge la globalité du problème, je trouve que l'évolution, on a plusieurs années de consultation et surtout de groupes de thérapie, c'était assez nouveau. On se rend compte dans les suivis, dans les follow-up qui ont suivi donc la prise en charge, on les retrouve 3 mois, 6 mois, 1 an après, ou dans les consultations. Ben, ce sont des personnes qui, justement parce qu'on a travaillé sur le fond du problème, c'est-à-dire sur les systèmes cognitifs ou sur les traumatismes ou sur ce qui a fait que la personne a utilisé l'addiction sexuelle comme moyen de s'en sortir, en ce moment on est à peu près à 60-70% de maintien de la on va pas dire de guérison, mais du changement à long terme. Mais ce qui est très important pour éviter les rechutes, c'est de travailler sur la prévention des rechutes, c'est-à-dire sur le caractère, on va dire, beaucoup plus global de la personne. Et on sait très bien que, comme ce sont des personnes insécures, le fait de pouvoir les sécuriser au travers d'un travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, sur le mieux-être dans les rapports aux autres, et notamment sur la sexualité construite avec quelqu'un, est quelque chose d'extrêmement important pour éviter les rechutes. Ouais.
Justement, il y a un chapitre consacré aux conjoints et aux proches pour faire face, parce qu'il y a beaucoup de souffrances également de la part des conjoints qui bien souvent sont anéantis par la situation. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Ils sont mis de côté, ils ont subi les mensonges pendant des années, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas exprimé trop rapidement. Mmh. Et puis, on sait très bien que si on prend en charge le conjoint, eh bien, il y a une grande chance aussi que le couple se maintienne.
Alors, à la fois prendre en charge le conjoint, mais permettre que le conjoint devienne un allié, va aider à cette évolution. Mmh. C'est évident que s'il y a une hostilité en face, ça devient très compliqué. Ça arrive quelquefois, tu te débrouilles pour guérir ton obsession. Moi, je ne veux pas en entendre parler. Là, on est dans un cas plus difficile.
Merci beaucoup à tous les deux, François-Xavier Poudat avec Martine Lagadec. Sexe sans contrôle, ça sort aujourd'hui chez Odile Jacob. Et puis toujours la bande dessinée sur la sexualité pour partir en vacances. Sex Story, la première histoire de la BD, c'est aux éditions Les Arènes, Philippe Brenneau. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
À 14h50 sur France Inter et comme tous les jours, cette semaine, la campagne officielle pour les législatives.
Élections législatives 2017. Campagne officielle, premier tour. En marche.
Nous sommes nés à Paris,
Rodez,
Kigali,
Saint-Yrieix-la-Perche,
Les Abîmes,
au Toulon.
Nous sommes français depuis toujours, ou simplement depuis quelques années.
Nous avons 24, 30, 40 ou 72 ans.
Nous sommes agricultrices,
peintres,
sportives
ou mathématiciens,
étudiants,
salariés,
indépendants
ou retraités.
Nous nous engageons pour la première fois ou avons déjà été élus.
Nous nous sommes mis en marche car nous ne nous sentions pas représentés par des professionnels de la politique au pouvoir depuis des dizaines d'années.
Nous nous sommes mis en marche car il était temps de renouveler notre vie politique.
Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un pas de plus, de nous engager.
Nous avons décidé de vous représenter.
Pourquoi nous ?
Parce que nous sommes vous.
Nous sommes paritaires.
Nous représentons autant la société civile que la différence des horizons politiques.
Notre décision est le fruit d'un engagement politique et moral, réfléchi ou simplement d'une envie d'arrêter de râler.
Nous croyons dans le progrès.
Nous croyons dans l'Europe.
Nous croyons que demain sera meilleur qu'hier.
Nous croyons en la liberté, l'égalité et la fraternité.
Nous sommes les nouveaux visages de la République.
Nous voulons être dans la majorité du président de la République pour agir.
Nous sommes plus de 500, mais nous sommes des millions.
Nous sommes la République en marche.
Nous sommes avec Emmanuel Macron.
Maintenant, tout est entre vos mains.
À vous de jouer.
7 En Marche. Parti Socialiste.
Oui, je m'appelle Édouard Gassin, j'ai 40 ans, j'habite à Nantes. Je suis chef d'entreprise. J'ai la chance de diriger une agence de communication avec une dizaine de collaborateurs. En fait, il y a 3 ans, notre entreprise s'est retrouvée en difficulté et on est passé à 3 semaines du dépôt de bilan. Ça a été un moment évidemment difficile, mais en même temps un moment très solidaire. Je veux dire, c'est des moments où on se serre les coudes. Et à ce moment-là, un peu comme une fulgurance, je me suis rendu compte que c'était ça le plus important. Le bonheur dans une entreprise, c'est très connecté, et là ça va parler à des entrepreneurs, c'est très connecté à la performance. C'est-à-dire quand on est heureux, on est bien avec ses clients, on est bien avec ses collègues, on est bien sur ses projets, on est plus fort en fait. Chez nous, il n'y a pas de hiérarchie dans le sens traditionnel du terme. La hiérarchie, elle se fait par l'expertise des gens, et non par leur titre, leur fonction ou un diplôme. Je ne décide pas des salaires dans mon entreprise. On a créé une échelle de salaire et ce sont les salariés en fait qui s'auto-évaluent et qui se placent sur cette grille de salaire. Depuis qu'on a instauré ce système, ce management innovant, libéré, on a gagné donc 10 points de performance. Il y a des injonctions paradoxales un peu dans le fait d'être un patron de gauche. Là aujourd'hui, je me sens cohérent avec mes valeurs, c'est-à-dire les gens d'abord. Les performances aussi, mais au service des gens, et non l'inverse. Il y a un risque aujourd'hui potentiel d'ubérisation du travail, d'ubérisation de la protection des salariés, et je pense qu'on a besoin d'avoir des députés à l'Assemblée nationale qui soient vigilants pour ça. L'entreprise, elle doit d'abord être au service de la société et des gens, avant d'être au service d'actionnaires ou de ce qu'on appelle le capital.
Et le travail, qui le repensera ? La France a besoin de gauche. Dimanche 11 et 18 juin, votons pour des députés socialistes.
C'était Parti Socialiste. Les Républicains.
Mes chers compatriotes, les 11 et 18 juin prochains, vous allez choisir vos députés. Ce sont eux qui, au Parlement, vont fixer le cadre général des grandes orientations à venir pour notre pays.
Je suis Pierre Régent, je suis candidat dans la Meuse. Je vote majorité pour la France, pour que la France rurale ne soit plus la grande oubliée.
Je suis Élodie Léger, je suis candidate sur la 3e circonscription de l'Isère. Aujourd'hui, je m'engage pour la majorité pour la France parce que je crois en cette droite qui a du cœur. La droite qui a des élus de proximité qui s'engagent pour vous.
Je suis Guillaume Decart, candidat dans le Var. Je vote la majorité pour la France parce que les Français attendent une majorité claire et cohérente.
Je suis Valérie Brosse, candidate Les Républicains dans la 4e circonscription des Français établis hors de France qui recouvre les pays du Benelux. Je me présente pour défendre les valeurs européennes qui sont aussi celles de notre mouvement.
Nous avons un projet, nous sommes prêts à le mettre en œuvre, un projet d'augmentation du pouvoir d'achat avec la défiscalisation des heures supplémentaires. Nous baisserons l'impôt sur le revenu de 10%. Un projet de refus de l'augmentation spectaculaire de la CSG qui va impacter les retraités, les fonctionnaires, les professionnels libéraux et qui va en réalité impacter toute la société française. Nous sommes prêts également parce que notre projet veut réarmer l'État, restaurer son autorité. Nous sommes favorables au rétablissement des peines planchers. Nous sommes favorables à une négociation de Schengen pour protéger nos frontières et éviter un chaos migratoire que nous ne pouvons pas accueillir.
Nous supprimerons les charges sur les emplois familiaux. Pour 1 euro investi dans la ville, nous investirons 1 euro dans la ruralité. Nous recruterons 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires et mettrons fin à l'inexécution actuelle des peines de prison. Nous diviserons par deux l'immigration en instaurant des quotas annuels. Nous renforcerons les savoirs fondamentaux à l'école pour qu'aucun élève n'entre en 6e sans savoir lire, écrire, compter, ni sans connaître l'histoire de notre pays. Nous rétablirons l'universalité des allocations familiales et relèverons le plafond du quotient familial.
Nous avons une équipe rassemblée, soudée. Nous avons un renouvellement fort de nos candidats, de jeunes hommes et femmes qui incarnent une génération, qui se lèvent, qui demandent un espoir. Ils sont là, au rendez-vous, ils sont à vos côtés.
Les 11 et 18 juin prochains, donnons une majorité pour la France, pour que vive la République et pour que vive la France.
C'était Les Républicains avec François Baroin. C'était la campagne officielle pour les élections législatives 2017. Premier tour.
Et puis comme tous les mercredis, vous avez rendez-vous avec nos confrères de France 5 pour le documentaire diffusé dans la science grand format à 20h50 ce soir, les 10 plaies d'Égypte, pour comprendre ce que nous révèle la science actuelle sur cet épisode biblique entre les eaux du Nil transformées en sang, l'invasion de grenouilles, de moustiques et de mouches, la disparition des troupeaux, l'épidémie de pustules sur les humains comme sur les animaux, l'orage de grêle, la prolifération de sauterelles, les ténèbres et enfin la mort des nouveau-nés, avec un biologiste Ciro Trevi Sanotto qui va démontrer que les catastrophes décrites dans la Bible ont pour origine, le volcanisme. C'est ce que vous allez donc découvrir ce soir à 20h50 sur France 5, en partenariat avec la Tête au Carré autour des 10 plaies d'Égypte.